Al Williamson, donc qui nous a quitté récemment. Un petit hommage pour situer un peu la carrière de ce grand monsieur du dessin. Alors il est né le 21 mars 1931 à New York, ce qui ne nous rajeunit pas, mais il a quand même passé l'essentiel de son enfance à Bogota, en Colombie, donc ça va faire plaisir à Tony, c'est le petit quart d'heure biographique dont on a un petit peu rien à foutre, mais qui peut toujours être sympathique. Donc il a passé donc son enfance en Colombie, d'où était originaire son père. C'est grâce au magazine de BD locaux qu'il est rentré en contact avec le monde des strips, de la bande dessinée, notamment il a pu voir les productions locales et les traductions américaines de grands strips. Il a pu aussi, il est tombé complètement amoureux du personnage de Flash Gordon, puisque sa maman l'a emmené voir un serial au cinéma de ce grand héros de science-fiction. Et donc il est devenu accro de ce personnage et il est forcément donc tombé sur les strips de Alex Raymond, pardon, grand dessinateur également, qui signait donc les strips comics de Flash Gordon. Donc dès lors, en fait, le chemin de Williamson était quasiment tout tracé. Quand il est rentré aux États-Unis avec sa mère à l'âge de 12 ans, il a commencé à prendre des cours de dessin. Et pas chez n'importe qui, puisque c'était chez Burt Bogart, le dessinateur mythique de Tarzan, et qui commençait là une carrière de pédagogue, puisqu'il devait un peu plus tard créer une école de dessin. Et Williamson devint un de ses premiers élèves. Pour partager son banc, il y a eu rien de moins que Hollywood ou Roy Krenkel, donc des grands dessinateurs. Et ce même Roy Krenkel aura une forte influence sur Williamson, puisqu'il lui fera découvrir en fait les grands artistes et les grands illustrateurs qui ont du début du siècle. Ces grands illustrateurs qui ont influencé les idoles de Williamson, hein, comme Alex Raymond et Alex Foster. Donc grâce à Krenkel, Williamson ira étudier les grands anciens, la base. Et c'est grâce à ça, notamment, que Williamson est reconnu comme un des grands dessinateurs classiques du XXe siècle. La petite histoire veut aussi que son professeur Regard ait pensé à lui pour lui succéder sur Tarzan, mais que Williamson refusa parce que ne s'en tout simplement pas prêt. Il lui conseilla même son mentor sur le nom de son successeur, puisqu'il proposa John Celardo, et c'est effectivement celui-ci qui signera à la place du maître les pages du dimanche. Alors en fait, durant les années 40, il travaillera essentiellement pour des petits éditeurs. Il fera ses premières armes, notamment aux côtés d'un certain Frank Frazetta, qui nous a quitté lui aussi récemment. Avec Frazetta, avec Roy Krenkel toujours, avec Angelo Torres, ils formeront un petit groupe qui sera affectueusement surnommé le Fliegel Gang, du nom d'un véritable gang de braqueurs du début du XXe siècle.
Non, en fait, c'est une petite anecdote, c'est que Frazetta était quelqu'un qui n'aimait pas, qui avait pourtant un talent inné en matière de dessin et de peinture, mais qui n'avait aucune confiance dans son ancrage. Et en fait, il préférait que ce soit Al Williamson, justement, qui ancre ses dessins.
Et on comprend, parce que Williamson est un des grands ancreurs du comics, fut un des grands ancreurs du comics, on le verra sur la fin.
Dessinateur de comics strip, parce qu'il avait créé une série propre, c'était Corrigan, non?
Il prépare de toute façon, il a même été en voyage d'études à Bogota ce week-end pour finir.
c'était peut-être moins sympa à l'époque que maintenant.
Il y avait peut-être moins de poudre à l'époque.
Exactement.
Ah bon, là c'est l'été, hein. C'est plus on est chez Géché à Bogota. Ah si, non, c'est l'hémisphère sud, excusez-moi.
Bon, bref, tout ça pour arriver donc à Williamson, et oui, toujours, puisque dans les années 50, il arrive finalement à percer, ultra mial, puisque ses amis Hollywood et Orlando, le font entrer chez EC Comics, où il livre de nombreux récits de science-fiction, qui sera son genre vraiment de prédilection en tant que dessinateur. C'est là où son style éclatera toute sa beauté classique. Et pour l'occasion, il arrivera à illustrer des grands récits de grands auteurs de SF, aussi réputés que Harlan Ellison ou Ray Bradbury, excusez du peu. Alors, après la fin des EC Comics, qui sont tués par... la campagne de censure du bon docteur Frédéric Vertarm, ben Williamson ira travailler chez d'autres petits éditeurs, enfin petits, les concurrents de Marvel de l'époque, c'est-à-dire Atlas, Harvey. Il ne participera pas aussi chez Dell à la collection des Classics Illustrated, ces grands romans adaptés en BD. Donc durant la décennie 60, sa participation au monde des comics sera un peu plus réduite, mais tout aussi significative, puisqu'il prend part à la création des titres d'horreur Eerie et Creepy chez Warren. Mais surtout, il signe les premiers numéros d'un comic book consacré à Flash Gordon chez King Features. Alors ainsi, Williamson peut suivre les pas de son idole. En tout cas, son travail est tellement remarquable qu'il est récompensé d'un prix. Et puis, il lui sert aussi de carte de visite pour reprendre une autre série d'Alex Raymond. En 1967, il commence donc à dessiner le strip Secret Agent X, qui sera renommé pour l'occasion en Secret Agent Corrigan. On y vient, mon cher Stéphane. Donc, ça sera en collaboration avec un autre grand monsieur, lui aussi disparu, c'est Archie Goodwin, grand éditeur et grand scénariste lui aussi. Donc ils ont travaillé tous les deux sur ce strip. Et en fait, bah, les comic strips seront la grande occupation de Williamson durant les années 60 et 70, puisqu'il participera à rien de moins qu'à de grandes séries comme Rip Kirby ou Big Ben. On en vient tout doucement, mais sûrement, aux années 80, où il renoue avec la SF en dessinant les adaptations BD de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi, des petits films dont personne n'a entendu parler, ainsi que celle de Blade Runner, tout ça pour Marvel. Alors, ces petits films, on en a quasiment entendu rien parler, ce sont les films de George Lucas, et du cycle de Star Wars. En fait, George Lucas est un fan lui aussi absolu de Flash Gordon d'Alex Raymond. Et donc, en hommage à ses lecteurs d'enfance, il souhaite voir Williamson dessiner le comic strip de Star Wars. Mais encore, Williamson refuse. Il reviendra cependant sur sa décision un peu plus tard, puisqu'il signera le comic strip jusqu'en 1983, la date de son arrêt. Autre adaptation qui lui tiendra à cœur est celle du film Flash Gordon, produit par Dino De Laurentiis. Alors, Williamson avoue dans une interview qu'il s'agit de son travail le plus dur de sa carrière. Est-ce que c'est parce qu'il a eu du mal à dessiner ou est-ce que c'est parce qu'il a eu du mal à lire le scénario? On ne sait pas trop, vu la teneur du film original.
Une relative prestation intéressante de Timothy Dalton, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver. Hein.
En tout cas,
c'est dommage.
Williamson donc, est tellement perfectionniste, en tout cas, qu'il met un temps énorme à terminer ses planches. Donc, durant ces années 80, on verra un glissement progressif vers tout simplement la carrière d'encreur, où il fera des merveilles, puisque en tant que dessinateur classique, c'est une de ses forces, c'est un artiste qui compose de merveilleux travail d'ombre, de merveilleux jeux d'ombre, qui rend toutes les planches sur lesquelles il a travaillé assez magnifiques. En tout cas, en tant qu'encreur, il aura des runs assez conséquents et de toute beauté, notamment avec John Buscema sur les premiers numéros de Wolverine. Il encrera aussi les épisodes de John Romita Jr. sur Daredevil, écrit par Adam Santi, une grande période. Il travaillera aussi sur les Spider-Man 2099 de Rick Leonardi, et sur Spider-Girl aussi, où il encrera Ron Frez et Pat Olive, je crois. Alors finalement, il se retire à la fin des années 90, et donc il est décédé le 12 juin dernier, laissant une œuvre considérable et puis aussi l'image d'un grand artiste digne de très grands illustrateurs américains. Je pense qu'au portrait des dessinateurs, il a assurément rejoint Alex Raymond, Ben Haggard et le récemment disparu également Frank Frazetta dont on parlait tout à l'heure.
Il fait quand même partie de ces dessinateurs classiques qui avaient une maîtrise du style, de l'anatomie. Et c'est vrai que c'était cette espèce d'école du comic strip où il fallait allier productivité, rapidité et qualité. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait un style, au niveau du... qui était très, très très fin et qui avait une capacité en matière d'ancrage à rendre à détailler les textures et à rendre un dessin, à magnifier les dessins. Et c'est vrai que sur tout le travail qu'il a pu faire avec John Romita Jr., qui est quand même un dessinateur réputé pour sa productivité et pour sa capacité. capacité à rendre quand même des crayonnés qui laissent quand même une marge d'appréciation à l'encreur, là on est arrivé à vraiment une osmose. Et c'est franchement un des plus beaux travaux qu'il ait pu faire.
Ouais, rien à rajouter pour le coup, c'est vrai.